Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Troisième Planète avec Bethléem et Julien. Et pour cette nouvelle édition, on parle bien sûr d'environnement et de société sur Sekaya, sur 88.3. Donc voilà. J'espère que vous avez profité de cette belle fin de semaine pour faire le plein de nature. Le plein de nature peut-être dans un de ces parcs naturels de la CEPAC. Il y en a 22 au Québec. Il y en a 22 et seulement un qui est un parc marin, celui du Saguenay-Saint-Laurent, qui s'étend sur plus de 1200 km² de la Malbaie jusqu'aux Escoumins et qui représente malheureusement moins d'1% de la superficie marine du Québec. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle de parc, etc. Mais parce qu'aujourd'hui, on reçoit Jérôme Spagari, qui est coordonnateur de projet à la Société pour la Nature et les Parcs, la SNAP. Voilà, et que fait la SNAP? Elle essaie justement de mobiliser les différents acteurs pour protéger ces écosystèmes et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'air protégé et d'air protégé connecté entre elles. Alors bonjour Jérôme.
Bonjour Bethléem, bonjour Julien.
Alors Jérôme, j'ai dit que tu étais coordinateur de projet, mais en fait tu es un peu plus que ça. À l'origine, tu es écologue. Alors qu'est-ce qui se cache derrière le titre d'écologue?
Derrière ce gros mot, effectivement, en fait j'ai une formation scientifique, j'ai une maîtrise en environnement, et un écologue c'est un spécialiste de l'écologie. En fait j'ai étudié l'écologie, j'ai d'abord fait de la biologie moléculaire et cellulaire, puis ensuite j'ai travaillé sur les écosystèmes, en particulier les écosystèmes marins. Et donc quand on travaille sur l'écologie, on peut dire qu'on est un écologue, et ça veut dire qu'on étudie ces écosystèmes. Et éventuellement, c'est aujourd'hui ce que je fais dans le cadre de mon emploi à la SNAP, c'est de chercher à mieux protéger ces écosystèmes naturels au Québec et au Canada.
Bien. Comme on l'entend ton accent, t'es pas d'ici, toi.
On n'est jamais exactement de là, mais c'est vrai que ça fait quelques années seulement que je suis installé au Québec.
Oui, et avant ça, je crois que t'as été beaucoup en Nouvelle-Calédonie. C'est où déjà la Nouvelle-Calédonie?
Ben c'est ça. En fait, le Québec, c'est une rupture parce qu'avant, j'ai passé beaucoup de temps sur les îles. En fait, j'ai travaillé sur les oiseaux marins et les otaries à fourrure des îles Kerguelen. J'ai travaillé en Corse et puis j'ai passé beaucoup de temps en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, en fait, c'est amusant parce que, pour faire un petit clin d'œil à ta remarque, la plupart des Français ont absolument aucune idée de où se trouve la Nouvelle-Calédonie. Par contre, au Québec, quand je dis que j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie, je vois toujours une lumière dans les yeux des gens qui s'allument, et les gens savent très bien où ça se situe. C'est un petit territoire donc français qui se trouve dans le Pacifique Sud, à environ 3000 km à l'est de l'Australie.
D'accord.
C'est une île qui est connue pour avoir une densité de biodiversité d'espèces, d'espèces qui est la plus importante au monde. C'est-à-dire que c'est le territoire où il y a le plus grand nombre d'espèces différentes par unité de surface. C'est-à-dire, potentiellement, en Nouvelle-Calédonie, partout où on va défricher 1 mètre carré de territoire, on est à peu près certain de faire disparaître, d'abîmer des populations d'espèces endémiques. Donc c'est quelque chose d'assez original.
Et finalement, qu'est-ce qui t'a fait faire le grand saut de la Nouvelle-Calédonie au Québec?
Ça reste une île. Et puis après 7 années passées sur une petite île comme ça, on a parfois envie d'aller se confronter à d'autres réalités. Et puis de changer justement de contexte de travail. Là-bas en Nouvelle-Calédonie, on peut se satisfaire de protéger n'importe quel mètre carré, encore une fois, parce qu'en protégeant 1 ou 2 mètres carrés, des fois même 2 ou 3 pieds de certaines espèces, on est certain de contribuer un peu à la survie de ces espèces qui sont vulnérables ou menacées ou en danger. Et le contexte de la conservation, de la protection de l'environnement au Québec et plus largement au Canada oblige à changer un peu la manière de penser, parce qu'ici il faut davantage penser en grands écosystèmes, en grands territoires, en grands lambeaux forestiers, en grandes zones marines, et ça change complètement ça a complètement changé ma manière de travailler, en fait.
D'accord. Justement, j'ai commencé à parler de parcs, d'air protégé. Le parc, c'est finalement un type d'air protégé, et il y en a des nombreux. Et comment est-ce qu'on les distingue au final?
Effectivement. Donc, une aire protégée, il y a une définition internationale qui précise un peu ce que c'est que ce concept-là. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un territoire géographiquement délimité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une frontière à ce territoire-là. On sait quand est-ce qu'on est à l'intérieur de l'aire protégée, quand est-ce qu'on est à l'extérieur. Il faut que ce soit un territoire qui est dédié à la protection de la nature. Alors, la nature, ça ne veut pas dire grand-chose, mais la biodiversité, les espèces, les processus environnementaux, les écosystèmes. Et puis, tout ce que ces écosystèmes sont capables de nous fournir, ce qu'on appelle les biens et services environnementaux, c'est-à-dire l'eau, l'air, la production d'humus, par exemple. Enfin, tout ça, ça constitue la constitution. Et donc, il faut que l'air protégé, dans son statut, qu'il soit légal ou autre, protège cette nature. Ça peut aussi protéger des aspects culturels. Il y a des aires protégées qui ont une vocation de protection de patrimoine culturel, en fait. Et donc, l'UICN, l'Union mondiale pour la nature, qui est vraiment la référence internationale en matière d'aires protégées, outre avoir défini ce qu'était une aire protégée, a aussi classifié ces aires protégées. Comme tu le disais, il y a énormément de statuts différents d'aires protégées. Au Québec, il y en a, je ne sais plus, entre 20 et 25. Les parcs, les réserves de biodiversité, les réserves aquatiques. Il y en a vraiment un très grand nombre. Et cette classification est croissante, en fait. Ça va de 1 à 6. Il y a 6 catégories d'aires protégées. La catégorie 1 étant la plus restrictive, c'est-à-dire celle à l'intérieur de laquelle on a un régime d'interdiction qui est le plus sévère. Souvent, ça va même jusqu'à une interdiction totale d'aller sur ce territoire-là. C'est réservé exclusivement. Enfin, on laisse l'écosystème s'autosuffire en limitant les interactions avec le reste de
finalement, ce ça peut être que des chercheurs ou des spécialistes qui vont...
Souvent, même les scientifiques, pour étudier ce territoire-là, ont besoin d'autorisation spéciale gouvernementale pour pénétrer à l'intérieur de ces réserves intégrales.
Il en existe beaucoup au Québec?
C'est
super
réserve. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais pas donner de réponse, mais globalement il y en a assez peu. Ça correspond aussi à une autre manière de protéger l'environnement qui est peut-être un peu plus ancienne. Et aujourd'hui, on se déplace un peu plus. Même si ces territoires-là très protégés, très fortement protégés, sont intéressants parce que c'est vraiment ceux où l'homme finalement perturbe le moins les écosystèmes dont il a besoin pour son bien-être et sa prospérité. On se déplace doucement vers des aires protégées de catégorie 2, 3, 4, 5, 6, plus ça va, plus on autorise des choses à l'intérieur de l'aire protégée. Et là, on essaye d'harmoniser un peu les activités humaines avec l'enjeu de conserver l'écosystème ou la biodiversité qui se trouve à l'intérieur de l'aire protégée. Et les parcs nationaux, qu'ils soient fédéraux ou provinciaux, il y a aussi deux législations qui se superposent ici au Québec. Il y a même des aires protégées de statut privé, en fait. Il y a trois différents niveaux là, qui viennent se rajouter aux 6 catégories. Donc tout ça fait une grande diversité d'aires protégées.
Ouais. Donc finalement, dans les parcs nationaux, il y a le droit de faire du tourisme, en fait.
Absolument. Non seulement il y a le droit, mais en plus, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a tout un tas d'études qui ont vraiment démontré que ces aménagements particuliers du territoire, donc qui sont voués à la protection du territoire, permettent de développer une activité économique localement. Parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un grand jardin autour de sa maison. Et puis donc, ça permet de s'évader et puis d'aller se retrouver en pleine nature. Puis je racontais ici en studio, juste avant que ça commence, que j'étais dans le parc du Mont-Tremblant cette fin de semaine. Et puis, c'est vraiment des moments exceptionnels. Donc, les gens vont facilement dans les parcs de la CEPAC ou d'autres. Et donc, les études les plus pertinentes pour le Québec ont été réalisées par, je pense, par Parc Canada et montrent que pour $1 investi dans un parc, en fait, on en récupère entre 3 et 6 dans l'économie, en fait, parce que les gens viennent payent des droits d'entrée, achètent du matériel de plein air dans des coopératives, dans des magasins de sport, pêchent, enfin voilà, tout ça fait que ça c'est véritablement un moyen de développer autrement nos territoires en région.
D'accord. Et alors le rôle de la SNAP dans tout ça finalement?
Ben, comme j'espère que j'ai essayé de le transmettre, on est convaincu que c'est important pour un pays d'avoir un réseau d'air protégé qui est représentatif de l'ensemble de ces écosystèmes. C'est évident que les écosystèmes du nord du Québec sont très différents de ceux du nord, de la rive ouest, la rive nord du Saint-Laurent ou au sud. Donc il y a des grandes différences. Donc il faut qu'on ait un réseau d'aires protégées qui soit représentatif de l'ensemble des écosystèmes du Québec. Ça, c'est important. Donc le Québec a fait d'énormes progrès. On est passé de quelques pourcentages d'aires protégées il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 8% de notre territoire qui est protégé. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Là. Tout le monde n'a pas fait tout le monde n'a pas réalisé ces progrès-là. Et globalement, en plus, ces 8%-là vont chercher à protéger un peu des différents écosystèmes qu'on trouve au Québec. Donc, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais on est aussi persuadé à la SNAP qu'il faut faire plus, en fait. 8%, c'est pas suffisant. C'est pas avec ce 8%-là qu'on va être capable de sécuriser le bon fonctionnement de ces écosystèmes-là. Et puis donc, in fine, oui, les écosystèmes, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, ben, finalement, tout ce qui nous apporte à nous, comme êtres humains, en ouais. termes de biens et de services écologiques.
Mm-hmm. Donc, parce que souvent, quand on pense aux écosystèmes, on pense à pourquoi protéger finalement le caribou ou le la mouette ou, voilà, mais c'est plus que ça, en fait.
C'est un sujet brûlant, le caribou. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Mais c'est ça, protéger le caribou, c'est d'abord protéger quelque chose qui ressemble à l'emblème des Canadiens, l'emblème des Québécois, là. Ce sont nos pièces de 25 sous. Et puis, c'est surtout une espèce qui est suffisamment sensible aux perturbations pour que sa présence soit révélatrice d'une bonne qualité de nos forêts. Donc, ça veut dire protéger le caribou, c'est aussi préserver ses forêts. Puis, ces forêts-là, on en a besoin, effectivement, pour aller chercher du bois. C'est quelque chose dans lequel on est très fort. On a besoin surtout d'avoir du caribou pour aller vendre ce bois à l'étranger, parce que le marché québécois suffit pas là. Puis donc il faut aller vendre ce bois à l'étranger. Puis donc on a besoin de montrer qu'on a été capable de protéger correctement les forêts. Puis bon, après, évidemment, les forêts ça piège du carbone, donc ça contribue à maintenir les équilibres climatiques. C'est des lieux où on peut aller se ressourcer, s'épanouir. Donc tout ça fait que voilà pourquoi on a besoin véritablement de protéger nos milieux naturels. J'allais dire marins, c'est une déformation professionnelle.
Ouais.
Et puis, voilà, la SNAP, on essaye de faire que les gouvernements, ceux qui sont concernés, Canada, Québec, fassent plus pour protéger ce patrimoine naturel commun.
C'est-à-dire créer des nouvelles aires, mais aussi s'assurer que les aires qui existent finalement sont en bonne santé.
Absolument. On joue sur les deux dans les deux directions, c'est-à-dire avoir plus d'air protégé. Donc, par exemple, le dernier engagement du Québec est de protéger 12% de son territoire d'ici 2015. Donc ça, c'est une cible quantitative, mais c'est aussi que s'assurer que on va pas toutes les mettre, par exemple, dans le Grand Nord québécois, où finalement il y a assez peu de monde, et puis ça va à court terme déranger assez peu de monde. Donc il faut aussi qu'on arrive à en mettre dans le sud, parce que c'est important, puis c'est là qu'il y a la majorité de la population qui vit, puis c'est là qu'on a besoin aussi de renforcer la santé de ces écosystèmes qui sont quand même relativement malmenés par nos modes de vie, en fait.
Ouais. Tu parlais des forêts, mais il y a aussi finalement tout le système de filtration de notre eau potable, si on veut qu'elle reste potable.
L'eau, l'air, ouais. tout ce qu'aujourd'hui on met sous le grand chapeau des biens et services environnementaux, biens et services écologiques, c'est-à-dire l'eau, l'air, le plaisir à aller en pleine nature, le sujet de recherche, tout ça doit être maintenu, en fait.
On parle justement d'eau. Toi, tu es un spécialiste du milieu marin. On va faire justement une petite pause marine bleue. Qui va nous amener dans le sud de la France. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet accent marseillais, mais vous allez l'entendre là, avec la chanson « Quelle est bleue ?»« Quelle est bleue ?» de Massila Sound System. Et vous allez voir, ça va démarrer tout doucement.
Les pescadous, les pescadous, les pescadous,
le bon Dieu qui navigue où il voudra, mais pas sur l'eau.
Mais alors, où veux-tu qu'il navigue?
Je veux dire, pas sur la mer, qui navigue comme toi, tiens, sur le vieux port.
Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de poissons. Elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons. Ils ont leurs identités moulons de style et de façon. Les petits mangent les vers et les gros les dévoreront. C'est la chaîne alimentaire, il faut que nous la respections. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. En moi ça me rend heureux, elle est pleine de marins, elle est pleine de marins. Tous les gens font ces gens, leur font un signe de la main. Ils s'en vont pour l'Afrique, ils s'en vont pour l'Asie. Ils viennent des Amériques, ils viennent de l'Océanie. Ils emportent un bout de Marseille et ramènent un bout d'ailleurs. Des souvenirs à l'appel et le récit dure des heures. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. En moi ça me rend heureux, elle est pleine de jolies filles. Elle est pleine de jolies filles. Aussitôt qu'arrive l'été, aussitôt que le soleil brille. Bikini, monophonie, des dunes de corps des demoiselles. Sous le ciel de Marseille, elles apparaissent encore plus belles. Les garçons tapageurs sont tous de méchants mangeurs. Robadoc, ghetto blaster, lunettes noires de rigueur. Ils font des matchs de volley et puis des concours de plongée. En bombe du plus haut des rochers. Ils se font cajoleurs et ils se font enjôleurs. Et pour apaiser leurs émois, se jettent à l'eau tous les quarts d'heure. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. En moi ça me rend heureux, elle est pleine de pêcheurs. Elle est pleine de pêcheurs. Il y a les professionnels et il y a les amateurs, les pros. Pour eux la pêche est un dur labeur. Mais pour nous autres les pescadous, la pêche est un vrai bonheur. Si tu te couches tard, tu peux prendre du sard. Et si tu te lèves tôt, tu peux attraper du fajon. Mais très patient, il faudra être patient. Précis, organisé et toujours être en mouvement. Avoir la meilleure tactique et l'employer au bon moment. Trouver ta position en tenant compte du courant. Quand ton chasseur sous-marin qui ne craint que les murs, il reste cool et serein, il attend que sa proie vienne. Hé, à la gâchon il est, à la gâchon respiration, à la gâchon il est, à la gâchon fusil harpon, à la gâchon il est, à la gâchon des gros poissons. Il porte beaucoup de plomb, possède de gros poumons. Il se prend pour le héros d'un film de Luc Besson. Et bébé, 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 bon, mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme des yeux. En moi ça me rend heureux, elle est pleine de jolis coins. Elle est pleine de jolis coins. L'hiver on s'y promène, l'été on y prend le bain. Tous les gens des quartiers de toutes les communautés. Sur un bout de rocher ou sur le sable surchauffé. Sans façon, sans manière et sans arrière-pensée. Bien ensemble partager le soleil et c'est bien fait. Quand je veux être cause, moi je m'en vais au Frioul. Quand je veux voir plein de gens, moi je m'en vais au Catalan. Si le temps se fait mauvais, je vais à l'abricotier. Et si je vais au bout du monde, je m'arrête à Calelong. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. En moi ça me rend heureux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. En moi ça me rend heureux, je dis papa, papa, papa de marina. Ici c'est pas la Riviera ni la Costa Brava. Je dis papa, papa, papa de marina. Oh monsieur Vivourou, il ne faut pas s'accacher ça. Je dis papa, papa, papa de marina. Ici c'est pas la Riviera ni la Costa Brava. Je dis papa, papa, papa de marina. Oh oui, Ragambo finir, faudra empêcher tout ça. Je dis papa, papa, papa de marina. Ici c'est pas la Riviera.
On est de retour sur 3ème planète sur Sekaya 88.3 avec Jérôme de la SNAP. Et on va parler justement de cette la belle bleue, cette belle mer, cet océan même, qui est en partie protégée au Québec, mais peut-être pas assez, sachant qu'il y a des endroits qui devraient l'être un peu plus. Au Québec, qu'est-ce qui te vient à l'idée en termes d'endroits de...
À protéger. Bah, c'est cela. Autant tout à l'heure, je saluais les énormes progrès qui ont été faits en matière de protection terrestre. Autant, c'est vrai qu'en milieu marin, on a beaucoup de retard. On a beaucoup de retard au Canada et au Québec. Aujourd'hui, comme tu le disais, il y a une aire marine protégée véritable, là, qui est le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Mmh. Puis c'est un beau projet, parce que c'est un projet qui a réussi à mettre autour de la table le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Et c'est un projet donc qui a réussi à associer ces deux gouvernements et puis qui fonctionne bien. Encore une fois, on se rend compte que c'est plusieurs millions de visiteurs par an qui se rendent dans le parc marin de Saguenay-Saint-Laurent. C'est plusieurs milliers d'emplois, un peu plus de 3000 qui sont temps plein ou temps partiel, qui sont maintenus ou créés grâce au parc marin de Saguenay-Saint-Laurent. Mais c'est le seul. Alors c'est sûr que c'est très insuffisant.
Avec le beluga mythique.
Avec le beluga. Ça représente moins de 1% du territoire maritime du Québec. En fait, le Québec a trois façades maritimes, hein, l'estuaire, puisqu'il y a de l'eau salée quasiment jusqu'à Québec. Là, on sent l'influence des marées jusque sur la marina de Québec, l'île d'Orléans. Donc de là jusqu'à la frontière avec les autres provinces maritimes, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, bah tout ça c'est sous la responsabilité du Québec. Il y a aussi une ouverture sur la baie James et puis un peu plus haut en Ungava dans le début de l'océan Arctique en fait. Donc il y a quand même une grosse responsabilité de la part du Québec en matière de conservation marine. Et donc il n'y a aucune aire marine protégée, ni dans la baie de James, ni dans l'océan Arctique. Et puis il y en a donc une seule dans l'estuaire du Saint-Laurent. Donc c'est certain qu'il faut faire plus, il faut faire beaucoup plus parce que pour différentes raisons. D'abord parce qu'on a besoin d'avoir des océans en bonne santé, nous comme population humaine. Aussi parce que on a pris des engagements. Le Québec, comme le Canada, ont pris des engagements à la fois localement et puis sur la scène internationale pour protéger davantage de cet exceptionnel patrimoine marin. Le Québec s'est engagé il y a un peu moins de 2 ans à protéger 10% de son territoire d'ici 2015. Donc on voit qu'on en est très loin. En fait, il n'y a pas depuis la prise de cet engagement, il n'y a pas eu de progrès qui ont été faits, pas de progrès notable en tout cas. Donc il faut vraiment aller plus loin. Et il faut changer la manière dont on travaille. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on travaillait site par site. Et donc, aujourd'hui, on a la capacité technique et scientifique d'avoir une approche beaucoup plus globale. Ouh, c'est dur à dire ça, beaucoup plus globale. Et de penser cet écosystème comme unique. Tu sais, tout fonctionne, tout est interrelié. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mm-hmm. Et donc, il faut qu'on réfléchisse sur des bases scientifiques à qu'est-ce qu'il faudrait protéger pour que l'ensemble de ce patrimoine-là reste en bonne santé puis continue à nous apporter des bienfaits. Et ça, il faut le faire. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer à travailler sur les sites sur lesquels on travaille déjà. Il y en a plusieurs qui sont à l'étude et puis qui pourraient voir le jour. Il y a notamment la réserve aquatique de Manicouagan, vers Baie-Comeau, là, qui est entre la rivière Manicouagan et puis la rivière aux Outardes, je pense. Puis donc toute la partie maritime de cette péninsule-là fait l'objet d'études depuis une quinzaine d'années. Et puis on espère que tôt ou tard, et plutôt tôt, elle fera l'objet d'une protection et qu'elle sera transformée en aire marine protégée. Il y a un projet aussi au large de la Gaspésie qui s'appelle le banc des Américains. En passant, on aurait pu trouver un autre nom, plus local, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est un haut fond, donc c'est-à-dire que c'est une espèce de montagne sous-marine où viennent se rencontrer des eaux relativement chaudes de l'estuaire et puis des eaux plus froides de l'océan Atlantique. D'accord. Et puis ce mélange d'eau froide, d'eau chaude crée des turbulences qui sont propices à la mise en suspension de tout un tas de nutriments et donc qui démarrent l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et ce qui fait qu'on y trouve aussi beaucoup de mammifères marins qui viennent s'alimenter sur ce haut fond-là. C'est un projet à l'étude. Puis le troisième projet à l'étude dans les eaux québécoises, c'est sur les îles de la Madeleine, évidemment, le cœur, je dirais, du Golfe, avec une population unique qui vit en harmonie avec son environnement depuis des décennies et peut-être même des siècles, en fait. Et donc là, l'enjeu, c'est d'arriver à préserver ce mode de vie qui est centré sur la pêche, qui est une véritable richesse pour ce territoire-là. Et puis, un impératif de protection, notamment, bien sûr, face à un possible développement de la filière des hydrocarbures dans le Golfe, là, dont on parle beaucoup aussi.
On a parlé, justement, des services que nous apportait la nature. C'est un peu moins évident de voir ce que nous apporte, finalement, le milieu marin. C'est plus compliqué.
Ouais. Mais Le plus évident, c'est de sortir du bâtiment de Secaïa, là, tourner à gauche, et puis de se rendre à la super poissonnerie qui est un petit peu plus loin sur la rue Saint-Joseph. Et puis, c'est sûr que là, on tombe sur tout un tas de trésors marins. Donc, c'est les premiers services les plus évidents. Quand on parle de biens et services écologiques, là, c'est sûr qu'on pense tout de suite à cette capacité qu'on a à aller prendre des éléments de nos écosystèmes naturels pour en profiter, en fait. Donc c'est sûr que tous les fruits de mer sont l'exemple type de ça. Il y a aussi la deuxième catégorie, c'est tout ce qui est régulation. Et en fait, on a souvent, pendant très longtemps, puis moi je me souviens quand j'étais au secondaire, là, on disait, l'Amazonie, les forêts africaines, c'est vraiment ça qui nous fait respirer.
C'est le poumon, c'est ça.
En fait, c'est faux. Je veux dire, la majorité de l'oxygène est produit par les océans. Donc, c'est quand même un enjeu colossal d'avoir ces écosystèmes marins en bonne santé qui continuent à nous fournir de l'oxygène, parce que sans oxygène, je ne donne pas longtemps à vivre. Il y a aussi quelque chose dont on parle énormément en ce moment, c'est la question des changements climatiques. En fait, l'océan a cette capacité à piéger le dioxyde de carbone, donc un de ces gaz à effet de serre, celui dont on parle le plus, et puis il l'intègre à l'eau marine, et donc c'est autant de gaz à effet de serre.
Finalement, les mollusques, la carapace des mollusques, c'est
du carbone, mais alors la manière dont il est intégré fait qu'il n'est pas utilisé par les mollusques, et il est finalement transformé en acide. Et ça, c'est un problème, c'est un des grands problèmes du 21e siècle probablement. On parle souvent des changements climatiques, mais en fait il faudrait parler de changements globaux. Et le fait que l'océan intègre autant de dioxyde de carbone, de CO2 dans l'eau marine, fait que l'océan s'acidifie, devient de plus en plus acide, et effectivement tous les organismes qui ont des coquilles, les crustacés, les coquillages, qui sont des mollusques, voient leurs coquilles fragilisées. Il y a aussi tous les coraux, évidemment, puis ça, c'est peut-être quelque chose qu'on sait moins. Il y en a dans le golfe du Saint-Laurent, mais oui, à des grandes profondeurs. Donc, c'est pas que sur la Grande Barrière de Corail en Australie ou en Nouvelle-Calédonie. Et donc, tous ces organismes qui ont un squelette dur, en fait, vont être tôt ou tard menacés par cette acidification des océans. Puis finalement, la troisième grand domaine des biens et services écologiques qui sont liés au milieu marin, c'est tout ce qui est, on appelle ça les services culturels, c'est-à-dire tout ce qu'on est capable de construire autour des océans. Pour nous, c'est passé très
imaginaire,
fort. On sort de l'océan, je veux dire, les premiers organismes étaient des organismes marins, et puis petit à petit, ils ont conquis les plages, et puis l'évolution a fait que petit à petit, nous sommes apparus. Donc, tu sais, c'est vraiment cette espèce de soupe originelle, là, c'est de là d'où on vient. Puis, si vous avez une maison, amusez-vous à le faire, là. Dites que vous avez une vue sur la mer, et puis la même annonce, pas de vue sur la mer, puis vous allez pouvoir gagner 20% sur le prix de votre bien immobilier. Donc, tu sais, rien que ça, c'est aussi quelque chose. Je veux dire, quand on sait que de se mettre sur une plage puis d'écouter le bruit de l'eau, là, c'est tellement apaisant, et c'est quelque chose. Ça fait partie des biens et services écologiques qu'il faut sauvegarder, qu'il faut.
Alors, tu me dis qu'il y en a pas assez. Comment ça se fait qu'il y a des freins particuliers à la création de ces réserves, plus que les réserves terrestres, finalement?
Il y a probablement le frein le plus facile à identifier, c'est qu'on connaît moins notre milieu marin. On connaît assez bien notre milieu terrestre. Qui n'est pas allé dans le bois, même rarement, là, tu sais, c'est facile. On prend une voiture, on prend un vélo, on marche, on est tout de suite dans le bois, on va avoir la capacité d'aller voir des animaux facilement, là. Caribou un peu moins, mais des orignaux, des renards, porc-épic, enfin tout ça, c'est facilement accessible. Le milieu marin, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Il faut avoir une embarcation pour aller. Enfin, on peut nager, mais même là encore, on ne voit pas ce qui se passe dessous.
On est sur l'eau, on n'est pas en dessous.
De l'eau. Donc c'est un milieu qui est beaucoup plus difficile à appréhender. On n'est pas capable. On dit le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent comme si c'était quelque chose d'assez homogène. En fait, il y a des très grandes variations dans la température, dans la salinité, dans la présence de différentes espèces. Dans le golfe, dans l'estuaire, là où arrivent les grandes rivières, puis le Québec a des rivières exceptionnelles. Je veux dire, il y a un mélange avec de l'eau douce qui fait chuter la salinité, qui crée les conditions de vie particulières pour certaines espèces. Donc il y a une très grande variabilité qu'on a du mal à appréhender quand on est sur le bord de la plage, sur la rive. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ça aide, ça facilite pas, en fait, qu'on ait envie de protéger ça. Et en fait, les premiers parcs nationaux qui ont été créés, ils ont été créés pour protéger des paysages naturels. Quand on regarde Yellowstone, c'est quelque chose qui a été frappant, puis les gens se sont dit c'est tellement beau qu'il faut qu'on le protège. Là, l'océan, ceux qui aiment la mer, ceux qui font du bateau, ceux qui font de la plongée, disent il faudrait tout protéger, mais c'est difficile de voir cette variabilité-là. Ça, c'est le premier frein, selon moi. Deuxième frein, qui est un peu plus politique à mon avis, c'est que il n'y a personne qui a une responsabilité unique sur les océans. C'est une responsabilité partagée entre les gouvernements régionaux, qui ont une responsabilité notamment en matière de gestion de la pollution. Il y a énormément de pollution qui vient des milieux terrestres et qui finit finalement dans les milieux d'eau douce et marins, parce que finalement les eaux douces convergent toujours vers l'océan. Il y a les gouvernements provinciaux qui ont une grosse responsabilité là, puisqu'ils sont aussi en charge de l'environnement, et puis le gouvernement fédéral qui a la responsabilité sur l'ensemble des océans du Canada. Et puis la collaboration n'est pas toujours évidente, en particulier entre le Canada et le Québec, mais on pourrait l'élargir aussi aux gouvernements régionaux en fait. Donc c'est certain que ça crée un deuxième frein. Chacun a ses outils pour protéger les milieux marins. D'ailleurs, le Canada en a plus que le Québec, qui est assez mal équipé dans ce domaine-là pour protéger ses milieux marins. Il a assez peu de moyens aussi. C'est aussi des moyens qui coûtent cher. Là. Ça demande des bateaux, ça demande des...
C'est beaucoup plus d'infrastructures.
Donc, c'est ça. Donc ça crée un deuxième frein assez puissant, à mon avis.
On en a parlé un petit peu tout à l'heure de cette notion de connectivité qui est d'autant plus importante en milieu marin, parce que finalement les barrières naturelles en milieu marin c'est un peu compliqué à voir, puis comme tu dis c'est un écosystème beaucoup plus global, beaucoup plus interconnecté que ce que le terrestre finalement.
On a eu pour l'illustrer, je pense que j'avais lu, puis je pense que beaucoup de nos auditeurs avaient lu il y a quelques mois cette anecdote là de deux jeunes filles qui étaient en vacances en Gaspésie, puis qui avaient jeté une bouteille à la mer en Gaspésie, puis qui bouteille qui avait traversé l'ensemble de l'océan Atlantique, puis s'était retrouvée peut-être en Irlande, je crois, si je me souviens bien. Ça illustre parfaitement cette notion de connectivité, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à un endroit donné dans l'océan va affecter un jour ou l'autre une autre partie de l'océan. Et si on redescend une échelle plus cohérente, notamment avec les responsabilités politiques, je veux dire à l'intérieur du territoire marin du Québec, c'est certain que ce qui se passe à Montréal ou au Québec a une influence directe sur les espèces qui sont présentes dans le fleuve et dans le golfe. Je veux dire, on regarde notamment si on prend l'exemple des bélugas qui souffrent énormément de maladies diverses, c'est quasiment certain qu'une partie de leurs maux proviennent d'une pollution d'origine humaine et donc ils ont à gérer des produits toxiques. Donc tout est interconnecté. C'est pour ça que c'est important de penser la création de notre futur réseau d'aires marines protégées de manière globale et de le penser de manière à ce que une aire marine protégée soit en connexion avec les autres. Et pour créer véritablement un réseau, puis un réseau, c'est quelque chose dont l'ensemble a plus de valeur que la somme des parties. Oui. Tout ensemble, ça fonctionne mieux, ça marche mieux que les éléments qu'il constitue pris séparément. Oui. C'est pas mal ça sur le réseau. L'autre chose qu'on pourrait évoquer, c'est les espèces qui migratrices, par exemple. Ou les espèces qui ont des cycles de vie un peu particuliers. On regarde certains poissons, par exemple les saumons qui vivent en milieu salé et puis qui retournent se reproduire en rivière. Et donc là, c'est certain qu'on ne peut pas protéger l'un ou l'autre. Il faut absolument protéger les deux écosystèmes pour être certain que l'espèce va pouvoir trouver les conditions favorables à sa survie, à sa vie, à sa survie. Dernier avantage d'un réseau, c'est que c'est sûr qu'idéalement, on est capable comme société de protéger l'ensemble de nos écosystèmes et puis on n'a pas d'impact suffisamment lourd qui font qu'on va dégrader ces écosystèmes-là. On n'est pas capable de protéger l'ensemble de notre estuaire, notre golfe du Saint-Laurent. Je veux dire, ça serait on aurait des freins économiques. Puis c'est normal. Je veux dire, il y a des gens qui vivent de ça. Puis ça serait pas compréhensible. Donc avoir un réseau permet aussi de restreindre certaines activités dans certaines zones et puis d'en autoriser d'autres dans d'autres zones. Puis ça, c'est important parce que c'est certain qu'on peut pas dire aux gens ben, ouais, demain on crée une aire marine protégée sur l'ensemble du golfe et puis donc on fait plus de pêche. Ça fonctionne pas. D'abord, socialement, ça fonctionnerait pas. Puis c'est pas souhaitable. Il faut continuer à pouvoir vivre de ces écosystèmes.
Concrètement, quand on parle de réseau, ça veut dire qu'il y a des espèces de couloirs protégés entre les deux. Comment ça fonctionne ?
En milieu terrestre, oui. En milieu terrestre, c'est véritablement ça qu'il faut parfois envisager. Mmh. C'est d'avoir, si on prend deux zones forestières, on peut imaginer ce que les écologues appellent un corridor de connectivité. Donc ça peut être une forêt qui a une forme plus allongée puis qui va permettre à certaines espèces qui n'aiment pas se situer en dehors des forêts de passer dans ce corridor forestier. En milieu marin, c'est pas ça.
Oui, c'est plus compliqué.
C'est simplement s'assurer que la distance qui sépare deux aires marines protégées est suffisamment courte pour que les espèces qu'on souhaite protéger puissent passer de l'une à l'autre.
D'accord.
Aux différents stades de leur vie. Parce que c'est certain que la capacité de déplacement d'une larve de poisson n'est pas la même que celle d'un poisson adulte. Donc il faut le penser, ça. Puis si on veut protéger telle espèce de poisson, on sait que, je vais dire un exemple au hasard, la larve a besoin d'être protégée sur 250 mètres. Il faut être certain que pendant ces 250 mètres, la larve va être effectivement protégée.
D'accord. Et puis finalement, nous, en tant que citoyens, comment est-ce qu'on peut vous aider à la SNAP, finalement, puis aider la société à progresser ?
C'est certain que nous, on est un OSBL, donc on a une base citoyenne, on a des gens qui nous supportent, on a des gens qui pensent comme nous qu'il faut développer et améliorer le réseau d'air protégé au Québec et au Canada, parce qu'on est un organisme canadien avec 13 bureaux partout au Canada. Et on a besoin de ce soutien-là, puis au-delà du soutien des gens, on a besoin de gens qui interpellent leurs élus, leurs responsables, et qui leur disent moi c'est important pour moi que cet écosystème-là, qu'il soit forestier ou marin, mais là on est quand même plus en train de discuter du marin, donc on va rester là-dessus, et qu'on leur dise là il faut véritablement que vous fassiez plus pour protéger les océans. Alors c'est certain qu'on a des campagnes comme toute OSBL qui se respecte. On a une campagne qui s'appelle d'un océan à l'autre, où on appelle les différents paliers de gouvernement à mieux protéger notre patrimoine marin, parce que finalement c'est notre patrimoine marin. Et puis en même temps qu'ils s'engagent à respecter les cibles internationales qu'ils ont accepté de se fixer, on leur demande d'avancer sur un certain nombre de sites particuliers. Donc au Québec, j'ai parlé du banc des Américains, j'ai parlé des îles de la Madeleine. Il y a un site aussi, c'est assez intéressant, sur la baie James, qui est une demande spécifique de la nation Cree, en fait, qui vit en harmonie avec son environnement marin, mais qui voit aussi le danger que pourrait représenter l'installation de la grosse industrie minière, pétrolière, puis qui dit, là, nous, on voudrait créer une aire marine protégée devant chez nous, c'est notre territoire ancestral, et puis on veut le protéger de manière plus stricte, parce que autant on a été capable de préserver les stocks de population de poissons qu'on chasse, qu'on pêche, par contre, on ne sera pas capable forcément de protéger correctement notre territoire contre l'industrie pétrolière ou l'industrie minière. Donc là, ils ont demandé aussi la création de cette aire marine protégée qui s'appelle Dawitch. Donc ça, c'est une campagne qui se trouve sur notre site, là, le site de la SNAP. Puis la campagne s'appelle D'un océan à l'autre. Puis ça, soutenir cette campagne-là nous aide, elle nous donne plus de poids quand on va rencontrer un député, quand on va rencontrer un ministre, et qu'on lui expose comment est-ce qu'il devrait s'y prendre pour faire des progrès. Si on lui dit, c'est tout seul, c'est moi, je suis écologue, ça n'a pas le même poids que si on dit, monsieur le ministre, on vous dépose aujourd'hui une liste de 16 000 personnes qui soutiennent la création d'un réseau d'air marine protégé. Ça, c'est un premier point. Puis comme je disais, un des freins étant la méconnaissance des milieux marins, en tout cas pour une partie de la population, peut-être y porter plus d'intérêt. Il y a une belle opportunité de le faire, là. Aujourd'hui, en passant, c'est la journée mondiale de la biodiversité, donc bonne fête à la biodiversité, puis j'espère qu'on va prendre soin d'elle un peu mieux que ce qu'on fait dans le passé. Le 8 juin, ça sera la journée mondiale des océans. Donc c'est un rendez-vous annuel qui est issu en fait du sommet de la Terre de Rio. Et chaque 8 juin, c'est l'occasion de célébrer les océans. Et cette année, en partenariat avec Espace pour la Vie, qui opère le biodôme, le jardin botanique, le planétarium et l'insectarium à Montréal, en collaboration avec Québec Océan, qui est le plus grand consortium de recherche en océanographie du Québec. La SNAP organise des projections du film Planète Océan. Planète Océan, c'est le dernier film de Yann Arthus Bertrand, qui est un photographe et réalisateur qui s'est fait connaître en faisant des photographies aériennes un peu partout sur la planète et qui avait réalisé le film Home. Et qui là vient de commettre le film Planète Océan. Puis donc, je pense qu'on ne sera pas déçu des images. Puis donc, il y aura des projections à Rimouski, à Québec et à Montréal.
Et il y en aura à Québec plus spécifiquement, je crois.
Absolument. À Québec, il y en aura deux le 7 juin à l'Université Laval, à 11h et à 13h30. Je vous invite à visiter le site de Québec Océan ou notre site à nous, snapqc.org. Vous aurez tous les détails pour le pavillon. Mais donc, c'est bien le 7 juin à 11h du matin et à 13h30. Et puis, il y en aura aussi une autre le dimanche 9 juin au Musée de la Civilisation à 14h. Donc, c'est des activités qui sont entièrement gratuites. Elles seront, en tout cas, celle du dimanche 9 juin au Musée de la Civilisation sera suivie d'une discussion avec des experts des milieux marins du Québec. Donc, je vous invite vraiment à y participer, à inviter vos amis. Il y a une plateforme de réservation, c'est gratuit, mais pour être certain d'avoir une place, je vous invite à réserver. Et ça devrait être un bel événement, une belle manière de célébrer ensemble les océans et puis de faire attention à ce patrimoine naturel.
Ouais. Surtout, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas noté, vous allez retrouver, je mettrai un lien sur le Facebook de Sekaya avec le lien vers le site internet et toutes les informations. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Et puis, j'aimerais aussi indiquer que ce week-end, on a aussi beaucoup parlé de vélo aussi à la Troisième Planète. C'est le festival Festivélo MEC qui a lieu au domaine de Mézeray samedi de 10h à 16h. Donc, je vous invite aussi à participer à cet événement. Je mettrai aussi de l'information sur le Facebook de Sekaya. Et puis, écoute, merci beaucoup, Jérôme, pour cette belle illustration de la protection de notre milieu marin au Québec. Voilà, et puis bonne fin de journée à tout le monde. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine sur Sekaya pour une nouvelle émission de Troisième Planète. Au revoir tout le monde.